Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Nous sommes au début du 19e siècle dans le Massachusetts, aux États-Unis. Après avoir fait de brillantes études à Harvard, le jeune homme rentre chez lui et se présente comme instituteur dans l'école de sa ville natale, qui s'appelle Concord. Rapidement, il est convoqué par la direction de l'école, qui lui demande de rentrer dans le rang. Il paraît qu'il refuse de battre les enfants. Le martinet, lui dit-on pourtant, est la meilleure manière d'inculquer de bons principes. Il doit suivre la règle. Henri écoute sans rien dire. Rentré dans sa classe, l'histoire raconte qu'il choisit au hasard 6 élèves et les fouette méthodiquement. Une fois son devoir accompli, il rédige sa lettre de démission et quitte l'enseignement pour toujours. Quelques années plus tard, le même obstiné refuse de payer ses impôts. Ce n'est pas le principe de la taxation qu'il conteste ou la somme qu'il trouve trop élevée. Mais les États-Unis mènent alors une guerre contre le Mexique qu'il juge impérialiste. Et puis tant que le gouvernement soutiendra l'esclavage qui sévit dans le sud du pays, qu'il rattrapera des esclaves fugitifs pour les emprisonner ou les remettre à leur maître, il se sentira responsable et refusera de verser un denier qui cautionnerait cette entreprise. Il est alors arrêté et conduit en prison pour refus de payer l'impôt. La somme demandée n'est pas très importante, mais le jeune homme se réjouit de cette arrestation qui lui permet d'affirmer haut et fort son refus et les raisons qui l'y ont poussé. Il n'y passera qu'une nuit, mais de cette expérience naît la notion de désobéissance civile dont Henry David Thoreau est l'inventeur. C'est le refus volontaire et ostensible d'appliquer un texte réglementaire au motif qu'il viole un principe supérieur. Cela n'est pas allé de soi, ils ont hésité, puis ils ont choisi de dire non. Tout de suite, ce sont deux histoires, 2 siècles plus tard, en France, qui expriment le même refus et la même révolte non-violente, collective et publique, de remplir une obligation légale ou réglementaire. Dire non, une résolution pour 2019, voilà une idée. Tout de suite, par Émilie Chaudet, dans Les Pieds sur Terre.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
C'est vos enfants, là ? C'est votre fils, ici ?
Oui, c'est mon fils. À l'époque du placement, c'était mon petit bonhomme avec ma fille.
Là, c'est quoi ? C'est un poème qu'il vous a écrit ?
Oui, elle était en famille d'accueil. Ouais, il m'avait fait un petit poème avec ses mots à lui, ses phrases, quoi. C'est...
Bon, en fait, c'est par rapport à mon prénom. J'ai Ginette, je t'adore comme le soleil. I, invincible parce que tu es dans mon cœur. N, normal. E, énormément. T, tu es la meilleure. T, ta vie est dure, mais il faut continuer. E, et n'oublie pas, je suis dans ton cœur. C'était pour la fête des mamans. J'ai quitté un petit garçon de 6 ans pour retrouver un adolescent de 15 ans.
À chaque fois, je pense à la même chose. Quand je regarde un film ou un documentaire sur la résistance pendant la guerre, quand je rencontre des militants pour telle ou telle cause, des gens qui partent faire les boucliers humains en zone de guerre, des gens qui essaient de créer, de se révolter comme ils peuvent, là où ils en sont privés. Je me demande, comment font-ils pour oublier la peur ? Comment est-ce qu'ils arrivent à le dire, ce non ? Est-ce que j'en serais capable, moi, qui n'ai encore jamais vécu de grande injustice ? Moi qui m'intéresse à celles que peuvent vivre les autres sans jamais plus m'engager ? Donc voilà, j'ai encore pensé à tout ça en lisant l'histoire de Ginette dans un journal local un jour où j'étais de passage à Tours. À ce moment-là, elle était déjà présidente de l'association Droit au Logement là-bas et elle n'avait de son fils que des poèmes, des photos et des droits de visite de quelques heures un week-end par mois. Ginette, femme battue, s'était vue retirer ses 2 enfants pendant sa dernière hospitalisation. Sa fille n'a jamais voulu la revoir. À sa sortie de l'hôpital, 2 policiers l'ont approchée.
Les violences ont débuté pratiquement dès le début de notre mariage, quoi. Donc, et j'étais isolée, j'étais prisonnière et je n'ai pas réagi, quoi. J'ai fait au moins 10 de séjours à l'hôpital. À chaque fois, j'y allais 15 jours, 3 semaines. Jusqu'à la dernière fois, j'y suis restée 1 mois, quoi. J'ai pris un parpaing dans la tête, hein. Grosse blessure, hein, un traumatisme crânien et ce qui s'ensuit. Et puis, bah, par la suite, grosse dépression pendant 2 ans, quoi. Pendant mon hospitalisation, mes enfants, à l'époque âgés de 6 et 13 ans, ont été placés en famille d'accueil. Mon ex-mari avait fait la demande, ce qu'il pouvait plus s'en occuper. Donc il est rentré en cure de désintoxication et il a placé mes enfants.
Vous, comment vous l'avez appris, ça ?
Bah, je l'ai appris le jour de la convocation. J'avais rendez-vous avec l'aide sociale à l'enfance, avec mes deux enfants. Et je ne savais pas que ce jour-là, on me les aurait arrachés, quoi. On me les enlevait. C'est une douleur atroce. Et je disais que voilà, j'étais à l'hôpital, mais ils n'ont rien voulu savoir, quoi. C'était signé, la famille d'accueil était déjà même présente, donc ils sont partis avec eux directement. J'ai rien pu faire, rien. Eux, ils n'ont pas compris sur le coup, ils ont cru que je les avais abandonnés. Puis j'ai pu par la suite leur expliquer vraiment le pourquoi de mon absence. Il avait gardé le domicile conjugal et moi j'étais à la rue en fait. J'étais au RMI à l'époque, pas de logement ni rien quoi. Je me suis retrouvée dans un foyer. Après j'ai rencontré quelqu'un qui est mon mari actuel. Après, c'était des années de bataille pour essayer de récupérer mon fils. Il fallait que je montre que ma stabilité, que ce soit psychologique ou de retrouver un logement digne pour pouvoir que mes enfants puissent venir à la maison. Donc, ça a été vraiment très, très dur, quoi. Puis, j'ai intégré le droit au logement. Les camarades se sont mobilisés à la mairie pour que j'aie le logement que j'ai actuellement, quoi, que j'ai eu sous 15 jours. Et après, j'ai pu avoir les visites de mes enfants. En 2009, j'étais simple militante, donc j'ai aidé le président dans tout ce qui était mobilisation pour éviter que les gens se retrouvent expulsés de leur appartement. C'était aussi conseiller, aider, monter des dossiers de demande de logement, aider les sans-papiers à avoir des papiers, un toit, de quoi vivre. Et puis arrivé en 2012, mon dossier n'avançait pas. J'étais un petit peu désespérée parce que j'avais toujours un mur devant moi, c'était l'aide sociale à l'enfance. Même si je montrais patte blanche, on ne me restituait pas mes enfants. J'avais juste des droits de visite, et c'était très dur de les vivre à l'époque. De voir ses enfants un week-end par mois, pour moi, ce n'était pas suffisant. Donc, comme j'étais militante du droit au logement, j'étais amenée à rencontrer des policiers sur Tours, qui ont commencé à me dire, si tu veux, on peut t'aider. On sait que ton fils est placé en famille d'accueil, que c'est dur pour toi, donc on peut t'aider. Donc, mais en contrepartie, il faut que toi, tu nous aides aussi. Ils y allaient doucement. Ils ont vraiment mis du temps avant de me proposer de l'aide par rapport à mon fils. Ils me demandaient juste, quand on partait en manif, le parcours de la manif, le nom des militants, où on allait, le nom des familles, que je donnais des noms. Ça pouvait être des familles de sans-papiers ou avec papier. C'est après que c'est venu ce chantage. En contrepartie de renseignements que tu pourras nous fournir, on peut booster ton dossier au niveau de l'aide sociale à l'enfance pour que tu puisses récupérer ton fils le plus rapidement possible. Ils m'ont même proposé aussi de m'aider dans mes recherches d'emploi. La première fois qu'ils m'ont proposé ça, c'est vrai que c'est mon cœur qui a parlé, j'y ai cru. Je me suis dit, pourquoi pas, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? Et après, en ayant parlé avec d'autres camarades, il s'avère qu'ils n'avaient aucun pouvoir, quoi. C'est le juge des enfants qui décide la restitution des enfants et non pas les policiers qui peuvent faire pression sur la juge.
Pourquoi ils sont allés vous voir, vous?
Parce que j'étais tout simplement la présidente du droit au logement à Tours. J'étais au courant de pas mal de choses qu'on faisait sur Tours, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils m'ont approché. C'était pas une personne comme ça dans la rue, quoi. Non. C'était vraiment pour le droit au logement, quoi. Voilà, ils voudraient savoir exactement nos intentions, ce qu'on veut faire, où on va. Parce que c'est vrai que ça nous arrive de rentrer en force dans la mairie ou... Donc voilà, mais on n'a pas à leur donner ce genre de... C'est nos actions du DAL, on n'a pas à leur donner les renseignements. Justement, quand on arrive, on est les grilles fermées, quoi. Au début, ils étaient gentils, ils me disaient bonjour, comment ça va, il n'y a pas de problème. Quand ils me proposaient de m'aider, c'était toujours en douceur et avec gentillesse, hein. Quand on faisait des manifs, avec d'autres camarades se faisaient violenter, moi, ils me disaient toujours, madame Ginette... Pousse-toi, on n'a pas envie de te faire du mal. Alors que mes camarades d'à côté se faisaient taper ou violenter. Le ton a changé parce qu'ils voyaient qu'ils n'allaient pas obtenir de renseignements de ma part. Donc c'est là qu'a commencé la pression et le chantage, quoi. Les coups de fil, au début c'était un par jour, deux et deux. Ça pouvait aller des fois, trois, quatre fois par jour. Je sursautais obligatoirement, puis comme je connaissais pas le numéro, à la fin, je répondais plus, quoi. Ou c'était des camarades qui répondaient à ma place. Je me rappelle, le dernier en date, c'était un des policiers qui m'appelait. Le camarade m'a dit, vous êtes-elle bien à la poissonnerie du des Halles, hein. Donc, ça a bien fait rire tout le monde, quoi. Et ça a pas rappelé, du coup.
Ginette reçoit des dizaines de coups de fil et de SMS tous les jours. Et elle se surprend à douter. Peut-être qu'après tout, ces deux policiers avaient raison. Il suffirait de répondre une bonne fois pour toutes au téléphone pour récupérer ses enfants rapidement. Leur indiquer le parcours d'une manifestation, l'adresse d'un immeuble à occuper, des noms de famille à la recherche d'un logement, et voir son fils revenir à la maison. Mais non, elle se ressaisit et en parle aux autres militants. Ensemble, ils prennent une décision.
Je me suis rendue avec un dictaphone à police de Tours, pour justement avoir la preuve, parce que c'était leur parole contre la mienne. Et la mienne ne vaut pas grand-chose par rapport à eux. Je suis arrivée, j'ai monté les escaliers, mon dictaphone était caché sur ma poitrine, pour pas que ça se voie. J'avais mis une écharpe de façon à cacher vraiment, c'était un tout petit, hein, c'était vraiment discret. Puis j'étais tout simplement en face d'eux, ils étaient tous les deux en face de moi. J'étais stressée en montant, mais quand je suis arrivée devant eux, j'étais détendue. Moi, tout ce que je voulais qu'ils soient enregistrés, c'est ce qu'ils me disaient verbalement ou au téléphone, quoi. Bon, moi, je me suis assis et tout. Ils ont commencé à me parler du droit au logement, qu'il fallait que je redresse le droit au logement, que on ne fréquentait pas toujours des militants corrects, qu'il fallait que je reprenne le dalle en main, quoi. Puis après est venu le sujet de mon fils, quoi. Que c'était dommage que je sois séparée de mon fils, qu'il comprenait ma douleur, mais qu'il pouvait m'aider, et qu'en échange, il fallait que moi je les aide aussi. J'ai pas eu besoin de les faire parler, hein. L'enregistrement et la retranscription parlent d'eux-mêmes, hein. J'ai pas eu besoin de leur faire cracher le morceau, comme on dit, hein. J'ai juste dit bonjour, puis je les ai écoutés tous les deux, quoi. Je répondis oui ou non, c'est tout ce que je disais. Donc voilà. La conversation terminée, je repars avec mon dictaphone et me rends directement à mon avocate pour constituer un dossier.
Se battre contre eux, ça lui donne envie de se battre pour elle. Ginette arrête ses traitements, elle retrouve un emploi, et puis son fils. À partir de là, le reste n'a plus vraiment d'importance. Alors oui, elle dépose une plainte pour aller jusqu'au bout, qui est classée sans suite.
Donc on m'a restitué mon fils au mois de juin 2012. Donc moi je me suis un petit peu remis en forme de tout ça, quoi, les émotions et tout. Repris un petit peu une vie normale entre guillemets. C'est compliqué quand vous quittez un enfant de 6 ans et que vous retrouvez un ado de 15 ans. Il faut que chacun retrouve sa place. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, chacun a pris ses marques. Maintenant, tout va bien, quoi. Tout va bien. Tant je les rencontre encore quand je fais des manifs, hein. J'en suis malade quand je les vois, quoi. Je me souviens d'un jour où j'étais en bas et ils sont passés en voiture, les deux policiers en question, et ils se sont arrêtés à ma hauteur et ils ont rigolé. J'ai moins peur aujourd'hui, mais j'ai quand même peur, quoi. Je fais attention à moi, quoi.
Everything to keep me from sleeping. A lot of sailor boys they were leaving, and everybody there they were jumping to hear the sailor boys in our chorus singing. A deep brown skin girl, stay home and mind baby. Brown skin girl, stay home and mind baby. I'm going away in a sailing boat, and if I don't come back, stay home and mind, baby. Now the Americans made an invasion. We thought it was a help to the island, until they left from here on vacation. They left the native boy home to mind their children. Singing, brown skin girl, stay home and mind, baby. Brown skin girl, stay home.
France Culture, les pieds sur terre.
Pas très accueillant, ouais.
Non, hein. C'est vrai que c'est pas. Oui, il va bien y avoir quand même un truc sympa quelque part quand même là-bas. Encore un parking un peu plus loin.
Vous connaissez pas ?
Ah, pas du tout.
C'est la première fois que vous venez ?
C'est la troisième fois que je viens, mais pas à la gare. C'est la première fois, oui.
Je le retrouve sur le parking de la gare de Douai. Il doit partir à Lille dans la soirée pour faire la fête avec d'anciens collègues de travail. Il a une longue queue de cheval grise et ondulée. Il fume le cigare et porte de gros anneaux en argent au doigt. Cet ancien technicien clientèle ERDF vient de Rouen et il ne veut pas dire son nom. Il y travaille encore, mais plus de la même façon.
Le matin, quand on part faire une tournée de coupure pour un payé comme ça, c'est lourd quand même. Hein, il fallait que je me blinde hein, quand même à chaque fois. Hein. Et pourtant, j'en ai fait un sacré paquet hein, de tournées de coupure pour un payé. Ça m'est même arrivé une fois même de dire à mon contremaître, ce matin, je le sens pas bien, quoi. J'ai pas envie d'aller m'affronter aux gens pour leur couper le courant, pour aller, etc. Il fallait quand même qu'on parte dans de bonnes conditions pour aller faire une tournée de coupure. Mais moi, je me blindais parce que j'étais toujours un peu angoissé. On savait la veille ce qu'on avait pour le lendemain. Ça m'est arrivé de pas trop bien dormir parce que je savais que j'avais peut-être, par exemple, 6, 7 ou 8 coupures franches à faire. Et que sincèrement, je le sentais pas bien. Donc j'ai commencé mon métier de technicien clientèle il y a à peu près une quinzaine d'années environ. Donc le métier de technicien clientèle qui à un moment donné donne l'obligation de faire de la coupure pour impayé, à la fois du service minimum, du maintien d'énergie, mais des tournées complètes de coupure pour impayé. On avait évidemment beaucoup de tournées de coupures pour impayés, hein, puisque les coupures pour impayés, ERDF ou GRDF, ça existe depuis très longtemps. Et la première fois, c'était en partant de l'agence un matin où j'avais une tournée de coupures et mon contremaître m'a dit « t'as des coupures dans ta tournée où il faut qu'elles soient faites impérativement, hein, coupure pour impayés ». Donc je suis parti de l'agence et puis en milieu de matinée je me suis retrouvé dans une maison où le coffret donc était à l'extérieur. On avait toujours l'obligation évidemment de sonner chez les gens et pour évidemment avoir un contact avec le client. Et donc il y a une dame qui est sortie et puis voilà qui m'a dit vous êtes l'EDF. Je dis oui, je viens par rapport à une facture qui n'est pas réglé quoi de votre part, peut-être plusieurs factures, je me souviens plus. Elle était déjà en service minimum, comme on appelait à l'époque, c'est-à-dire que c'était 1000 watts, elle avait juste 1000 watts à disposition. 1000 watts dans la maison, c'est, on peut imaginer, un micro-ondes, un chauffe-biberon, un peu d'éclairage, le frigidaire, surtout pas de chauffage électrique. En plus, moi, la période où j'y suis allé, c'était à peu près la période de mars, quoi, quelque chose comme ça, hein, donc... Donc voilà quoi, elle avait presque rien à disposition quoi déjà. Donc elle m'a proposé de rentrer chez elle, donc je suis allé chez elle, sachant qu'en plus la coupure se faisait à l'extérieur, mais bon, je suis allé bien sûr chez elle puisqu'elle me le proposait. Et quand je suis rentré dans la maison, c'était une maison des années 70, enfin une petite maison. Donc elle a commencé à m'expliquer évidemment comme ça se passe à chaque fois sa vie. Toutes les difficultés qu'elle pouvait avoir, son mari qu'elle avait perdu il y a 3 ans, qu'elle avait 3 enfants, un bébé, 2 enfants qui étaient à l'école, donc elle avait son bébé qui était dans un transat, quoi, juste à côté. Et donc voilà, moi je savais au final que je venais pour la couper définitivement, quoi. Au départ, on a discuté un petit peu de sa situation, de combien elle devait. Elle me proposait de me donner 200 euros en liquide. Moi, je savais que je n'avais pas le droit de prendre d'argent liquide. Il fallait que je prenne la totalité, je le savais. Les 1200 euros, un 4V, c'était la totalité. Elle m'a dit aussi bien qu'elle ne pourrait pas payer les 1200 euros. Donc, je lui ai dit que moi, j'étais là pour lui couper l'énergie, quoi. Ça n'a pas été du tout conflictuel, puisqu'elle m'a dit aussi bien, vous faites votre métier, donc vous pouvez couper. Et à ce moment-là, je me suis déjà dit, je ne couperai pas cette dame-là. Parce que le contexte, une personne au chômage, un mari décédé, 3 enfants... parce que le problème de notre travail, c'est que l'acte technique de couper le courant, après, c'est terminé, quoi. Nous, quand on a coupé le courant, ça ne peut être qu'un agent de RDF qui vienne remettre le courant. Ça voulait dire que le soir, les enfants rentrant de l'école... Un mois de mars, hein, donc on voit bien la nuit à quelle heure elle tombe, enfin, etc., etc. Donc moi déjà dans ma tête, je désobéissais déjà par rapport à mon entreprise parce que je savais très bien que je n'allais pas la couper. Donc j'ai quand même téléphoné à ma hiérarchie. J'ai proposé les 200 euros, donc évidemment on m'a dit bah non, c'est pas possible, tu peux pas prendre de liquide. J'ai proposé aussi de dire bah on pourrait la laisser en 1000 watts comme elle est, enfin etc. Et bah non, c'est une coupure franche, on doit couper, ça fait déjà pas mal de temps que la dame elle est en 1000 watts, elle a dépassé le etc. Donc voilà, j'ai raccroché et puis je me souviens plus si j'ai dit aux collègues au téléphone, mais moi dans tous les cas je couperai pas, je vais pas pouvoir couper cette personne là. Je pense qu'elle, elle se rendait pas compte à un moment donné, parce que quand elle m'a dit bah, « Vous mettez pas en danger par rapport à votre métier, vous pouvez me couper », je pense qu'elle se rendait pas compte de ce que c'était qu'une coupure de courant. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte à un moment donné, quand arrive la nuit, aujourd'hui, ce que c'est que de pas avoir de courant, quoi. Elle me parlait quand même que bah, comment elle allait faire, évidemment, pour comment bah, pour le soir, pour les devoirs des enfants, comment elle allait faire pour chauffer le biberon, même s'il y a d'autres solutions. Elle avait déjà un poêle Zibro, vous savez, là, les poêles avec etc., qui sentent d'ailleurs très mauvais dans la maison, parce qu'elle ne pouvait plus utiliser le chauffage hein, par l'électricité, puisqu'il n'y avait que de l'élec aussi bien, il n'y avait que de l'électricité dans la maison. Voilà, donc elle m'a raconté un petit peu sa vie pendant trois quarts d'heure, une heure, tout ce qu'elle avait vécu, évidemment, comment elle allait faire avec ses enfants. Juste une maman, elle avait que de la famille, elle avait que sa maman. Elle dit je j'ai pas la possibilité d'aller vivre chez ma maman. Je sais pas comment je vais faire avec ma maison. Enfin voilà quoi, ça a été un petit peu toute la misère parfois sociale, tout ce qui peut se passer parfois dans notre pays quoi. Et donc moi je lui ai dit quoi, à un moment donné je lui ai dit mais c'est bien madame, vous tracassez pas, je vous couperai pas. Après, il est vrai qu'on peut toujours se poser, je me suis certainement peut-être posé la question quand même, étant donné que c'était une coupure franche, je ne faisais pas mon travail, j'allais peut-être être sanctionné, etc. Je n'y ai pas vraiment pensé sur le coup. À un moment donné, je me dis, bon, bah, je vais partir et puis je vais la laisser, cette cliente, et puis au moins je lui laisse les 1000 watts, et elle peut continuer à vivre encore quelques temps comme ça, sachant qu'en plus, je sais derrière que j'ai des collègues qui vont y retourner, ou même peut-être moi, peut-être deux jours ou trois jours après. Mais en général, enfin toutes les fois où ça m'est arrivé, je me pose pas la question au départ, quoi, de me dire, bah, j'ai désobéi, parce qu'en fin de compte, c'est un acte technique, ça fait partie de mon métier. Donc quelque part, bah, ça veut dire que j'ai désobéi, comment, à l'ordre de travail que j'avais vis-à-vis de mon entreprise, quoi. Et je savais ce que mon chef allait me dire quand j'allais rentrer à l'agence. Et quand je suis rentré à l'agence, mon responsable de service m'a dit. Mais attends, on n'est pas des assistants sociaux, nous, on est des techniques, ça fait partie de ton métier, tu devais faire la coupure. Toutes les fois où ça m'est arrivé, je n'ai pas été sanctionné, mais c'est vrai qu'en rentrant, bah, obligatoirement, bah, on passe un petit peu devant le contremaître qui nous dit, bah oui, mais non, mais tu avais un acte de coupure à faire, tu aurais dû le faire, quelque part, il n'y a pas d'état d'âme à avoir, c'est ton travail, tu dois le faire. Alors cette dame, je ne lui ai pas coupé le courant, mais je sais que par la suite, évidemment, quelques jours après, j'ai un collègue, alors moi je n'étais pas présent ce jour-là, mais je sais que j'ai un collègue qui y est retourné et qui lui, évidemment, sachant que je n'avais pas coupé, s'est trouvé dans la même situation et qui, il me semble, me rappeler que lui, il l'a coupé. Pour essayer de biaiser un peu, ça nous a, je pense que c'est arrivé à tout le monde de mentir. Moi, dans tous les cas, ça m'est arrivé. De dire j'ai pas vu le client, j'y ai mis un avis de passage, de dire à mon hiérarchique bon bah le client était pas présent, je l'ai pas vu, donc je me suis pas permis de le couper parce que j'avais, il faut, comme on parlait toujours d'un premier contact quand même avec le client, mais c'était toujours compliqué parce qu'on savait très bien qu'à un moment donné, bon, le contremaître qui lui avait déjà fait le métier très souvent avant savait très bien comment ça se passait, et puis voilà. Bon, j'imagine bien que nos responsables, bon, voilà quoi, ils sont pas fous non plus. Ils savaient bien que peut-être qu'il y a des moments où on leur racontait un petit peu des cracks, quoi, par rapport à nos interventions de coupure, enfin, etc.
Jamais d'avertissement, de blâme, de mise à pied ou de licenciement, comme cela a pu arriver à quelques-uns de ses collègues. Toujours très entouré par le milieu syndical, il a réussi à se protéger jusqu'à un certain point.
Aujourd'hui, c'est complètement différent ce que je fais. C'est vrai que je me suis rendu compte à un moment donné que, surtout aujourd'hui, ne faisant plus de coupures pour impayés, je sens bien que je suis soulagé. Me connaissant, avec le caractère que je peux avoir, sans doute qu'à un moment donné, j'aurais pu être sanctionné au travers de ce métier-là que je n'arrivais plus à faire.
Hier, je vous ai demandé si le fait que vous ne soyez plus aussi amené à faire des coupures, c'était lié justement au fait que vous refusiez de couper. Vous m'avez dit que oui, il y avait sans doute un peu de ça.
Oui, il y a peut-être un petit peu de ça, mais bon, je saurais pas trop comment expliquer ça. Je sais pas trop.
Ses collègues l'ont mis en garde avant notre rendez-vous. Il vaut mieux ne pas trop parler de l'entreprise, on ne sait jamais. Ce sont eux aussi qui lui ont conseillé de rester anonyme. Il ne me dira jamais au micro comment il a été écarté de ses fonctions initiales, comment il s'est éloigné des compteurs. Aujourd'hui, de ces gens, il ne garde que des noms de famille lointains qu'il voit défiler parfois sur un écran d'ordinateur.
Aujourd'hui, je ne vais plus du tout au contact de la clientèle. Je continue à avoir un contact avec les collègues qui, eux, sont au contact de la clientèle. C'est pour ça que régulièrement, c'est eux qui me parlent de tout ce qui se passe sur le terrain. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai gardé un contact comme ça. Mais moi, sinon, c'est terminé. J'ai plus du tout de contact avec la clientèle.
It makes a long time, man, feel bad. It makes a long time, man, feel bad.
C'était Non, un reportage d'Émilie Chaudet sur la désobéissance réalisée par Delphine Lemaire avec un coup de main de Yaël Mandelbaum. Merci à Ginette, à Jean-Baptiste Hérault de l'association Droit au Logement, à Bruno Martin et à notre agent ERDF qui a préféré rester anonyme. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Camille Richir, notre stagiaire.
No letter.